L'agence Abaca a 25 ans. Jean-Michel Psaïa se souvient, première partie. Jean-Michel Psaïa est un des fondateurs et le patron de l'agence de presse Abaca. Il espérait, en cette fin d'année, fêter les 25 ans de l'agence. Mais la Covid, nouvelle formule oblige, la fête est reportée au printemps. Abaca a été fondée en 1992, mais l'agence a réellement démarré sous sa forme actuelle en 1996. Autrement dit, au moment où l'Internet s'impose mondialement et où les premiers boîtiers numériques apparaissent. Cet anniversaire est l'occasion de lui demander ce qui a changé dans ses deux métiers, celui de photojournaliste, qu'il a exercé 8 ans à l'agence Sipa Presse, avant de fonder Abaca, et celui de patron d'agence. Avant d'évoquer les bouleversements économiques du marché de la photo de presse, dans ce premier volet, Jean-Michel Psaïla nous parle de l'évolution du travail du photojournaliste sur le terrain, de l'argentique au numérique, du passager à la compression de fichiers. Alors Jean-Michel, votre métier de photographe n'est plus le même qu'il y a 25 ans ?
Le métier se renouvelle sans cesse. Il y a toujours des choses à couvrir, des angles à trouver, des photos à faire. Et donc voilà, il y a 25 ans qui sont passés et en même temps, on est toujours là, malgré toutes la complexité de ce métier. Et on est là, je pense, parce que les générations passent et on a réussi à passer au fur et à mesure le relais, comme nos pères nous ont passé le relais. Gökçin Sipayoglu m'a passé à un moment donné le relais, je le considère comme mon maître professionnel. Et puis après, le temps passe, et puis après on se dit, on arrive à la soixantaine, et puis on se dit, c'est peut-être aussi à nous à passer le relais aux jeunes photographes, et puis aux jeunes journalistes qui veulent faire ce métier, qui sortent des écoles, et puis c'est notre mission, on passe aussi le relais dans un nouveau monde, dans un monde qui a changé au niveau de la prise de vue, parce qu'on est passé de l'argentique au numérique.
Vous faisiez Mandela en Afrique du Sud en 1996, on était en argentique, et donc le photographe qui faisait ces photos, il avait
un appareil argentique, donc un appareil argentique pour les nouvelles générations, parce que je suis sûr qu'il y en a des jeunes de 15-16 ans, peut-être qui ne savent pas encore ce qu'était un argentique, oui. Donc il faut faire attention à notre vocabulaire.
Tout à fait.
L'argentique, c'était des appareils photo avec un miroir, et donc il y avait l'exposition de la lumière qui arrivait sur un film qui avait ou 24 poses ou 36 poses. Donc en gros, quand on appuyait sur le bouton à l'époque, déjà on regardait notre lumière, on savait en tant que photographe, on savait évaluer la lumière avec notre œil, c'est-à-dire qu'on savait quelle vitesse il fallait avoir et quel diaph il fallait ouvrir, et on appuyait gentiment sur le bouton parce qu'on n'avait que 36 vues et donc les rafales à l'époque c'était rare. Donc il y avait un moment où entre les yeux, le cerveau et le doigt, on choisissait le moment idéal pour faire la photo qu'on allait ensuite éditer. Donc ça c'était important. Ensuite, qu'est-ce qui se passait ? On rembobinait notre film. Donc parce qu'il fallait que ça reste dans le noir, dans l'étui du film, et puis on mettait ça dans une enveloppe, et où que l'on était dans le monde, on allait à l'aéroport et on trouvait un passager pour envoyer nos films à nos rédactions à travers le monde. Donc voilà comment ça se passait. Aujourd'hui c'est différent, le photographe il est en numérique, donc il a une carte, il fait un nombre de photos beaucoup plus importante, avec les capteurs, c'est plus du film, donc c'est des capteurs qui sont des capteurs un peu vidéo. On a tendance à moins regarder sa lumière, en tout cas les jeunes générations, et on s'aperçoit justement que la différence aujourd'hui sur les photographes, en gros, il y en a qui font pas du tout attention à leur lumière, et c'est une catastrophe, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus respectueux parce qu'ils ont été à une école photographique et ils continuent à regarder leur lumière, ils continuent à regarder leur cadrage, ils continuent à choisir leur fond, et ça fait vraiment la différence de niveau au niveau de la qualité des photographes que l'on a dans les... Je parle de ça dans les, vraiment la nouvelle génération.
Mais quand vous avez créé Abaca, vous étiez encore en argentique, et quand est-ce que les photographes d'Abaca sont passés au numérique? En quelle année?
C'est très simple. En fin de compte, on est passé en numérique en 98. On est passé en numérique. Je pense qu'on a fait la première couverture. Abaca a fait la première couverture d'un magazine français avec un DCS Kodak que l'on nous avait prêté. Et on faisait ça avec... j'étais parti en reportage avec Bruno Cassajus, je crois. Et on a été couvrir le mariage de Véronica Loubry en Nouvelle-Calédonie. Et je me rappelle très bien que voilà, on avait envoyé les photos, on était sur une plage, on avait envoyé les photos par un modem, et la photo était parue en couverture d'un magazine People, je me rappelle plus lequel. Et je crois que c'était vraiment la première couverture d'un magazine français en numérique. Alors, c'était de très mauvaise qualité, hein. Je veux dire, c'était des appareils photo qui coûtaient une fortune à l'époque et qui étaient remplacés 6 mois après parce que la technologie évoluait. Et voilà, donc on avait aussi, avant ça, on avait des Hasselblad qui étaient du matériel de transmission où on développait le film, on le scannait et l'Hasselblad l'envoyait, et ça, on avait couvert les Jeux Olympiques. Disons que le boîtier numérique, c'était vraiment la Coupe du Monde 98, où là, on a commencé vraiment à couvrir la Coupe du Monde 98 à Paris avec des boîtiers numériques.
Donc essentiellement, finalement, Abaca a été une agence numérique, pratiquement.
Abaca est totalement une agence numérique, c'est-à-dire que c'est ce qui a fait, je pense, notre réussite et le fait qu'on a pu se positionner tout de suite sur le marché de la photographie. On a dit que voilà, on s'est dit tout de suite qu'il fallait qu'on bascule dans le numérique, et donc on a acheté l'informatique nécessaire à stocker les images et puis à investir tout de suite dans les boîtiers numériques, et on est passé sur du Kodak, ensuite sur du Canon, ensuite sur du Nikon, et puis on n'a pas arrêté de faire évoluer nos photographes avec du matériel que l'on fournissait à 80% de nos staffs. Voilà, donc Abaca en soi, vous arrivez, on a déménagé 3-4 fois depuis, on n'a pas de Cardex, on n'a pas de film à stocker, on débranche, on prend des serveurs, on les rebranche et ça fonctionne.
Et la transmission, dès le début, vous avez transmis avec des modems?
Au début, on transmettait avec des modems parce qu'il n'y avait pas de, ligne haut débit, donc c'était du modem. Hein. On déchargeait nos cartes sur nos ordinateurs et puis c'était du téléphone. Je me rappelle que moi, j'étais parti à Las Vegas pour couvrir le concert de Johnny Hallyday à Las Vegas, où Johnny Hallyday, en plus, il était très malade à ce moment-là, il avait une extinction de voix. Et on avait fait une exclue, je crois, avec le Journal du Dimanche. Il fallait envoyer les photos au Journal du Dimanche. Je me rappelle, à l'époque, j'avais transmis une vingtaine d'images de mon hôtel à Las Vegas. Je m'étais pris une note de téléphone de 2000 euros.
Ah oui, oui, ça, voilà. J'imagine.
2000 euros, et à l'époque, 2000 euros, vous pouvez multiplier par deux. Ouais. Hein, c'est-à-dire que... Ouais, c'était parce que le problème, c'est que ce que l'on avait à l'époque, c'est que quand on envoyait la photo, il fallait qu'elle passe à 100%. Si des fois la ligne coupait à 98%, il fallait recommencer à zéro.
Oui, enfin.
Et alors là, c'était l'enfer. Mais bon, on a réussi et les photos étaient parues et on avait fait une exclue avec Johnny Hallyday, ce qui était de bons souvenirs à l'époque.
Et à partir de quel moment ça fonctionnait beaucoup mieux? À partir du moment où il y a eu l'Internet, évidemment, mais bon, l'Internet, il n'était pas partout quand même.
Non, mais bon, à chaque fois qu'on se déplaçait, on avait ce paramètre à gérer, hein. C'est-à-dire qu'on allait, on prenait des hôtels où, voilà, après, il y a eu des cartes de téléphone que l'on pouvait prendre qui coûtaient beaucoup moins cher. Puis petit à petit, les poids de fichiers sont devenus, on a pu comprendre ce qu'était la compression sans pour cela détruire les images. Donc on a évolué en fonction de la technique, en fonction des budgets, en fonction des compétences des photographes, en fonction aussi des journaux, parce que les journaux, il fallait aussi qu'ils soient capables de recevoir les images. Et donc voilà, c'est la vie, hein, c'est l'évolution de la vie avec une technologie qui sans cesse nous pousse à dépenser, nous pousse à nous adapter. Moi, franchement, hein, je préfère l'argentique au numérique, hein, concrètement.
Là, maintenant, tout est en numérique, non?
Aujourd'hui, tout est en numérique. Aujourd'hui, oui, même y compris les photos de studio des grands photographes artistes,
Oui.
ils travaillent en numérique mais avec des poids de fichiers qui sont énormes, qui sont pas du tout adaptés au reportage et à la presse. Ça modifie totalement le travail du photographe sur place. Ça modifie sur deux aspects. Le photographe, il doit être aujourd'hui vraiment complet. Le photographe, il doit savoir écrire, il doit savoir parler l'anglais, il doit savoir faire une légende. Il doit avoir des compétences techniques d'envoi parce qu'il est tout seul. Une fois qu'il a fini son reportage, une deuxième journée commence en fait pour lui, hein, parce qu'il doit éditer, il doit légender, il doit recadrer, il doit envoyer. Et donc, il a encore des heures de travail après son reportage. Donc, quand vous imaginez, hein, un photographe qui fait un match de foot classique, il finit à 22h30 son match. Bon, il essaye d'envoyer des photos pendant le match, mais s'il n'arrive pas à envoyer des photos pendant le match, et ben il continue à travailler dans le stade pendant 2 3 heures pour éditer son sujet et l'envoyer. Donc le photographe doit être complet. Ensuite, il y a un autre paramètre, hein, c'est que le photographe doit aussi avoir des compétences de transmission, avoir une connaissance de son matériel qui n'arrête pas de changer, avoir un ordinateur qui soit puissant.
Alors, ça a quand même peut-être un impact éditorial, si je puis dire. C'est-à-dire que le fait que ce soit le photographe qui édite aujourd'hui, et plus quasiment l'agence édite plus, finalement.
Il faut savoir qu'Abaca est une agence magazine, on n'est pas une agence filaire.
Oui.
Une agence filaire, c'est une agence qui doit, dans la seconde, envoyer ses photos. Donc, c'est Reuters, AFP, AP, Associated Press. Et donc, ils sont tous en concurrence et ils font un événement, ils doivent l'envoyer partout parce qu'ils cherchent le quotidien et le quotidien à travers le monde. Nous, on ne fait pas ça. Nous, notre marché, c'est quand même la réflexion, le recul. Et la qualité. Alors, je dis pas que les agences filières n'ont pas de qualité, mais il y a des fois, ils font du factuel. Nous, on réfléchit un petit peu plus nos images. Donc, ça peut altérer. Certaines fois, on est dans le rush, on a besoin d'envoyer, ça peut altérer. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait des doubles choix en soi. On peut très bien envoyer 10 images et puis ensuite reprendre complètement les cartes et puis refaire un choix. Et l'agence, elle a des éditeurs, donc le photographe, quand je dirais qu'ils ont des qualités, des défauts, ils ont le défaut des fois d'envoyer beaucoup trop d'images. Voilà, c'est difficile, hein, on est dans le rush, on est fatigué, donc on se dit, allez hop, on envoie, on n'a pas le temps d'ouvrir toutes les images, ils n'ont pas le temps non plus de les reprendre une par une, donc ils les envoient, et l'agence, elle est là pour reprendre les photos, pour reprendre la qualité des images, pour reprendre les cadrages, pour aussi faire une diffusion monde des images, non? Et puis l'agence, elle est là aussi pour stocker les images, pour rajouter de l'indexation, pour rajouter parce qu'une image numérique, elle a aussi le défaut, c'est que une fois qu'elle est rentrée dans les ordinateurs, il faut qu'elle ressorte pour être vendue.
Oui.
Et donc il faut la légender, mettre des mots-clés. Non, non, je trouve que les agences aujourd'hui et que les photographes aujourd'hui ont besoin encore plus d'agences qu'avant à penser avec eux sur des avenirs européens.
C'est formidable. Les photographes chez vous que vous avez aujourd'hui, ils travaillent dans quelles conditions avec vous? Ils ont des contrats, ils sont salariés, ils sont en droit d'auteur, ils sont comment?
Alors c'est un mixte, c'est un mixte. Nous avons des photographes salariés et j'essaye le plus possible de travailler petit à petit en intégrant des photographes salariés de jeune génération parce que c'est pas simple pour eux. Après, on a des photographes qui sont un peu plus vieux, qui eux ont vécu la transformation de leur métier, qui sont restés dans le métier, qui ont beaucoup de 2, 3, 4 clients avec des clients aussi, je dirais, entre guillemets, corporate, hein, où ils font des photos pour des entreprises, et en même temps, ils font aussi du news. Et donc, eux, ils se sont mis en société pour certains. Il y en a qui sont en droit d'auteur à travers la compagnie des reporters qui leur offre la possibilité de facturer pour eux, et ils les déclarent en AGSA. Donc aujourd'hui, c'est plus les photographes contre les agences. C'est un petit peu ce qui a tué le métier dans les années 90 et qui ont fait souffrir et des entreprises et des photographes. Aujourd'hui, on travaille les uns avec les autres, il y a une vraie discussion, il y a une vraie reconnaissance, je dirais, des difficultés de l'entreprise et aussi une vraie reconnaissance de l'entreprise par rapport aux photographes qui ont des difficultés. Et à partir de là, on n'est pas les uns contre les autres. On s'écoute, on s'aide. Et puis on va faire en sorte, quand on voit un photographe qui est en difficulté, de lui faire des avances, de l'aider, de le salarier quand on peut, de faire des piges salariales quand on peut. Et c'est un équilibre que l'on a réussi à trouver avec les nouvelles générations de photographes.
Ah, mais ça, c'est au moins une note d'espoir.
Mais moi, je reste très positif et très même avec voilà, j'ai 60 ans, mais en tout cas, je sens vraiment des photographes qui réfléchissent, qui ne sont pas comme certaines générations avant, aigris, parce que ils pensaient que les agences les volaient, parce qu'ils pensaient que les agences vivaient sur leur dos. Je pense que ça, il y a eu vraiment beaucoup d'excès et ça a fait beaucoup, beaucoup de mal à la profession.
Cette interview a été réalisée par téléphone le vendredi 3 décembre 2021 par Michel Puech. Le son a été monté, mixé, comme d'habitude, par Jean-Louis Vinet. C'est une production de wàl'œil.info, le site qui a le journalisme et la photographie à l'œil. Retrouvez tous nos podcasts, nos articles, nos portfolios sur wàl'œil.info. Je précise, un petit tiret du 6 entre le A et le L, un petit tiret du 6 entre L et œil, et info au singulier. Bonne écoute et à bientôt!